Le journal Loïc Barrière. Le nouvel an de l'Hégire est célébré ce week-end par les musulmans. Quel est le sens de cette fête? Nous écouterons Raleb Bencher, président de la Fondation de l'Islam de France, et Mohamed Moussaoui, président de l'Union des Mosquées de France. Une rencontre à l'Élysée hier soir entre le prince héritier Mohamed Ben Salman et Emmanuel Macron. Parmi les questions abordées, l'énergie, le Liban, le Yémen et le Proche-Orient. Le président Macron a par ailleurs exprimé le soutien de la France à la candidature de Riyad pour accueillir l'exposition universelle en 2030. Sur cette visite à Paris du responsable saoudien, entretien avec le politologue Qatar Abou Diab. 1500 migrants secourus par trois navires ces derniers jours en Méditerranée. Enfin, après un rebond de la croissance, Bruno Le Maire se veut optimiste sur la santé de l'économie française. Les musulmans célèbrent ce vendredi soir le nouvel an de l'Hégire. La nouvelle année commencera officiellement ce samedi 30 juillet. Elle correspond au premier jour de Muharram, le premier mois du calendrier islamique. Les musulmans commémorent l'émigration du prophète Mohammed à Médine en l'an 622 du calendrier grégorien. Entretien avec Raleb Bencher, président de la Fondation de l'Islam de France.
Dans la tradition religieuse islamique, le nouvel an hégirien a une importance capitale. Certes, ce n'est pas comme les deux grandes fêtes principales que sont la fête du sacrifice et la fête qui ponctue le jeûne du mois de Ramadan à la fin de la lunaison Ramadan. Néanmoins, l'hégire, qui renvoie à l'exil, au départ, à la fuite, à la migration du prophète de l'islam, contraint de partir de la Mecque vers la nouvelle Médine qui s'appelait alors Yathrib. Ceci a eu lieu, pour faire la correspondance avec le calendrier commun, comme on dit, c'était en 622 de l'ère commune, et donc la date est fondatrice de l'ère islamique et de l'instauration du début du noyau de la communauté, de la Oumma, de la communauté des croyants musulmans.
Cela correspond au moment où les musulmans ont été une véritable communauté.
On commençait à l'être, effectivement, dès le début de l'organisation de cette communauté, en effet. Et c'est pour cela que les nouvel an de cette nouvelle ère est célébré chaque année avec ferveur, avec émotion et aussi avec beaucoup de joie et de festivité.
C'est un moment aussi pour se souvenir des débuts de l'islam.
Entendu, c'est un moment pour se remémorer, se souvenir des débuts de l'islam comme inscription dans le temps et aussi une articulation dans des cultures et dans l'espace. C'est aussi un moment où l'on se recueille, où l'on s'ouvre à autrui, où l'on s'échange des mets, des cadeaux, et c'est aussi, selon les régions bien entendu, et les pays, les différentes traditions, cela donne lieu en festin. En Afrique du Nord, tout particulièrement en Algérie et en Tunisie, je crois aussi au Maghreb, d'une manière générale, au Maroc aussi, il y a une fête autour d'un couscous.
Et donc cette date change chaque année comme l'Aïd?
Évidemment, cette date change chaque année, puisque l'année égyrienne est fondée ou basée sur le calendrier lunaire. Or, l'année lunaire accuse un déficit de 10 jours par rapport à l'année solaire. Elle est flottante, comme disent les scientifiques, sur l'année solaire, et elle avance donc de 10 jours chaque année. Cette année, il y a deux approches. Il y a l'approche scientifique et l'approche traditionnelle. L'approche scientifique a déjà déterminé le nouvel an égyrien, et donc c'est la nuit de vendredi à samedi, qui viennent là, et l'année et l'approche traditionnelle, c'est le fait d'observer le croissant lunaire. Et donc chaque année, cela avance de 10 jours.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux auditeurs de Radio Orient à l'occasion de ce nouvel an égirien?
Ben, la vie des hommes est cyclique, et donc nous sommes à la veille d'un nouveau cycle, c'est l'année 1444 de l'année égirienne, que les musulmans et musulmanes en France et de par le monde d'abord se recentrent sur eux-mêmes, qu'ils laissent place à l'amour, à la bonté, à la miséricorde, à l'ouverture sur autrui, à l'altérité, notamment l'altérité confessionnelle, envers les deux autres familles de la grande tradition abrahamique, donc aux juifs et aux chrétiens. Et aussi, c'est un message de fraternité pour l'ensemble de l'humanité. En ce qui nous concerne en France, au moins à la fois que les valeurs de la République soient une réalité pour l'ensemble des citoyens et que les valeurs abrahamiques de partage, d'accueil, de générosité, de solidarité soient aussi une réalité pour l'ensemble des croyants et par-delà pour tous les hommes.
Ghaleb Bencher, président de la Fondation de l'Islam de France. À l'occasion de ce nouvel an de l'Égir, je vous propose d'écouter Mohamed Moussaoui, président de l'Union des Mosquées de France.
À l'occasion de le nouvel an égirien du 444, je présente mes vœux les plus chers à l'ensemble des musulmans du monde entier, et de France en particulier, en espérant que cette nouvelle année viennent avec beaucoup de santé, de prospérité, de bonheur pour l'ensemble de nos concitoyens, de toute religion, de toute conviction, de toute condition. Nous souhaitons que l'humanité retrouve en cette année les valeurs qui font son humanité, et qu'il y ait plus de solidarité entre les peuples, plus de paix entre les peuples. Et je souhaite particulièrement adresser ce message à l'ensemble des musulmans de France, mais au-delà des musulmans de France, c'est que cette année égirienne nous rappelle l'immigration du prophète de l'islam de Mecca vers El Madina et la construction de cette société médinoise qui était plurielle. Et dès son arrivée, le prophète de l'islam a tenu à créer la pacification entre les tribus arabes qui vivaient dans cette ville, mais en même temps, il a aussi fait rédiger le pacte de Médine, qui stipule la bonne entente, le bien vivre ensemble entre toutes les composantes de la société médinoise, quelle que soit leur religion, juifs, chrétiens, musulmans, vivaient dans cette société comme des citoyens d'une même communauté. Et je pense que cette image que nous a donnée l'histoire et que nous a permis de revoir à travers les textes traditionnels nous disent aujourd'hui combien il est important que ces valeurs de vivre ensemble, d'acceptation mutuelle et d'une citoyenneté qui engloberait toutes les autres appartenances, est importante à commémorer à l'occasion de ce nouvel an. Je souhaite également présenter mes vœux les plus chers à l'ensemble de l'équipe de Radio Orient et la féliciter pour le travail qu'elle fait en direction de l'information, de la bonne information, de la culture et de culture plurielle à l'image de la société française. Et je souhaite donc présenter mes vœux particulièrement aux responsables, à l'équipe de Radio Orient, en espérant beaucoup de réussite dans cette année à venir et toutes les années à venir.
Mohamed Moussaoui, président de l'Union des Mosquées de France, interrogé par Mazen Hamoud. Samedi à midi, vous pourrez écouter les vœux d'Anouar Bibesh, président du RMF, le Rassemblement des musulmans de France. Le prince héritier saoudien a remercié le président français pour son accueil chaleureux hier soir à l'Élysée. Une visite qui intervient alors que la France et d'autres pays européens cherchent à diversifier leurs sources d'énergie après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Emmanuel Macron et Mohamed Ben Salman ont évoqué plusieurs sujets, notamment le Liban, le Yémen et le Proche-Orient. Il a été question aussi de la coopération culturelle entre les deux pays. Le président Macron a annoncé qu'il soutenait la candidature de Riyad pour accueillir l'exposition universelle en 2030. Que retenir de cette visite? Je vous propose d'écouter le politologue Qatar Aboudiab.
Cette visite ou ces dîners de travail de prince héritier saoudien à l'Élysée couronne une série de consultations et d'entretiens du président Macron avec le premier ministre israélien, avec le président palestinien, avec le président des Émirats arabes unis, avec le président égyptien, et il a eu un contact téléphonique de 2 heures avec le président iranien pour le pousser accepter la restauration de l'accord nucléaire. Donc le président Macron est très actif sur la scène géopolitique moyen-orientale, et en même temps c'est vrai que le contexte géopolitique créé à l'issue de la guerre en Ukraine et la crise énergétique en Europe nécessite tous ces entretiens avec tous les acteurs influents dans ce sens. Et rappelons que le président Macron lui-même, il a eu une visite en Arabie Saoudite en décembre de l'année dernière. Il a gardé les contacts. La France ne renie pas ses engagements de droits d'homme comme certains milieux médiatiques et certains ONG estiment. La France mène une politique efficace, mais sans propagande, et tient à ses relations bilatérales et à la diplomatie multilatérale dans tous les sens.
L'Arabie Saoudite est un partenaire incontournable pour la France au moment où la France, comme les autres pays d'Europe, subit une crise de l'énergie.
Sans doute, même lorsque le président des Émirats Arabes Unis est venu en France, il y avait la signature d'un protocole de coopération énergétique dans le milieu de l'hydrogène et pour fournir plus de diesel à la France. Et avec l'Arabie Saoudite, c'est le pays leader dans les cartes de l'OPEP et les cartes de l'OPEP+. C'est le deuxième producteur de pétrole, le pays qui a beaucoup de réserves de gaz. Donc, et en plus de tout ça, il y a 179 sociétés françaises qui travaillent en Arabie Saoudite. Il y a beaucoup d'actions communes, beaucoup de coopération entre les deux pays. Et pour cela, sur ces plans et sur d'autres plans, ce maintien du dialogue s'impose.
Il y a aussi une coopération culturelle entre la France et l'Arabie Saoudite, un sujet qui est rarement évoqué dans les médias. C'est important, cette coopération culturelle?
C'est très important et ça a été acquis suite à la visite de MBS, du prince héritier saoudien, en 2018. La France, maintenant, c'est le premier partenaire extérieur culturel de la France, de l'Arabie Saoudite. La France contribue dans la région Al-Ula, une région dynamique pour le tourisme saoudien. La France contribue à la création de plusieurs musées en Arabie Saoudite. Il y a 2 alliances françaises, 5 lycées internationaux français en Arabie Saoudite. Il y a plus d'étudiants saoudiens qui viennent en France. Et donc la France, sur le plan culturel, accompagne les changements, accompagne le changement révolutionnaire effectué par Mohamed Ben Salman pour changer la société saoudienne. Les valeurs françaises passent avec les fast power, avec cette force douce de valeur, et c'est un grand acquis pour ces maintiens aussi des dialogues de civilisation au lieu des clashs de civilisation, sachant que l'Arabie Saoudite c'est le pays leader dans le monde musulman, et pour cela ces maintiens des liens aussi est très utile pour les deux parties.
Le royaume saoudien est en train de se transformer de façon révolutionnaire, dites-vous. Vous pensez notamment à tout ce qui est fait sur le plan culturel, des choses qui étaient impensables il y a encore quelques années.
Écoutez, l'Arabie saoudite, quoi qu'il en soit, même si c'est un pays très riche, c'est un nouveau pays. C'est un pays, il a eu son indépendance en 1926, mais il n'a pas eu l'annonce du royaume qu'en 1936. Donc l'Arabie saoudite, il a eu avec le boom pétrolier une modernisation de façade. Maintenant, il y a une modernisation réelle sur le plan de même de rôle de la femme dans la société, sur le plan de la lutte contre l'extrémisme et le maintien des valeurs médianes de l'islam, des valeurs de tolérance. Donc c'est un changement capital. Les concerts musicaux sont permis, ils n'ont pas été permis avant, les femmes peuvent voyager seules. Il y avait donc un saut qualitatif de transformation en Arabie Saoudite, et donc la France contribue à sa manière d'accompagner ces processus.
Le politologue Qatar Abou Diab. Un jeune Palestinien tué par l'armée israélienne, âgé de 16 ans, il a été touché par des tirs à balles réelles lors d'affrontements avec l'armée israélienne près du village d'El Mourayer, dans le secteur de Ramallah, en Cisjordanie occupée. Des parlementaires américains de gauche ont déposé une proposition de loi pour que les États-Unis enquêtent sur la mort de la journaliste américano-palestinienne Shirin Abu Akleh. Cette proposition de loi est déposée alors que la famille de cette journaliste, tuée par balle le 11 mai, s'est rendue cette semaine à Washington. Près de 1500 migrants secourus ces derniers jours alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe en traversant la Méditerranée. Ils ont été pris en charge par le Géo Barents, le navire de Médecins Sans Frontières, l'Ocean Viking de SOS Méditerranée et le Sea-Watch 3 de l'organisation Sea-Watch. Ces dernières semaines, des milliers de migrants sont arrivés sur les îles de Lampedusa et de Sicile. Depuis le 1er janvier, 38 770 18 personnes sont arrivées en Italie par la mer. Au Maroc, un villageois a été mis en examen pour incendie involontaire dans la province de Larache, la région la plus touchée par les feux de forêt. Selon la presse, il aurait fait des travaux sur la clôture de sa maison avant de mettre le feu à des restes de matériaux dont il voulait se débarrasser, mais le feu s'est rapidement propagé. En France, alerte à la listeria, des nuggets de poulet vendus en grande surface ont été rappelés. Il s'agit des nuggets de poulet de la marque Maître Coq qui présente une bactérie source de maladie. Les barquettes concernées sont celles d'un kilo qui peuvent être consommées jusqu'au 11 août. Les détails sont à retrouver sur le site gouvernemental Rappel Conso. Enfin, Bruno Le Maire se veut optimiste pour la santé de l'économie française. Alors que l'inflation s'est de nouveau renforcée en juillet, atteignant 6,1%, le ministre de l'économie anticipe une baisse en 2023. Bruno Le Maire se réjouit par ailleurs du rebond de la croissance au deuxième trimestre, plus 0,5%. Cette édition est terminée. Excellent week-end à l'écoute de Radio Orient.